Prions. Seigneur, merci pour le temps que nous passons ensemble. Merci pour la parole. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons de l'ouvrir. Merci pour le privilège que nous avons de la connaître, de la sonder, d'y découvrir parfois des choses surprenantes, mais en tout cas dans tous les cas d'y trouver des conseils, des guides, des exigences, des recommandations, des ordres qui balisent nos vies, qui changent nos vies, qui révolutionnent, qui réforment notre existence. Que ta parole soit une lampe sur nos lumières, sur nos pas, que ce soit une lumière sur nos sentiers. Seigneur, accorde-nous que nous vivions de ta parole chaque jour et maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez que nous sommes en train de terminer une trilogie. Non, vous saviez pas ça. Vous savez, c'est quoi une trilogie? Non? Par exemple, une trilogie, c'est un film en trois temps, mais pas nécessairement relié. Quand on dit une trilogie, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une histoire qui suit une autre, qui suit une autre. Ça peut vouloir dire il y a une logique qui tient entre les trois, mais pas nécessairement une histoire. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, je sais pas moi, il y a des tas de trilogies comme ça, où quand vous regardez l'histoire, parfois on part d'un petit bout de l'autre, mais ça n'a plus rien à voir. Eh bien, j'ai proposé une trilogie d'enseignement, et c'est le troisième aujourd'hui, c'est le dernier de la suite. Et j'avais en fait proposé, en démarrant l'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on revienne un peu sur un des engagements majeurs du chrétien, à savoir gagner des âmes pour Jésus. Il s'agit de l'évangélisation, mais j'ai préféré prendre le mot « gagner des âmes ». Pourquoi ? Parce que quand on parle d'évangéliser, on pourrait dire « j'annonce l'évangile ». Puis, c'est tout. Mais quand je parle de gagner des âmes, ça veut dire que dans ma façon d'évangéliser, j'y mets une volonté que les personnes soient gagnées. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la différence? Quand je vais évangéliser, je peux lâcher ma petite bombe, boum, et puis avant que la personne dise je me taille. Il a entendu, c'est tout. Mais lorsque je parle de gagner quelqu'un à Christ, alors je prends le temps pour prier, le temps pour choisir les mots qu'il faut dire, le temps pour faire des choses avec cette personne, avoir une relation avec cette personne, avoir un travail qui emmène tout doucement à ce que cette personne soit gagnée à Christ ou pas, mais en tout cas qui amène de la profondeur. Gagner une personne à Christ, il ne s'agit pas simplement d'annoncer, mais c'est de mettre en place une stratégie, une méthode, une approche pour conduire la personne tout doucement. Il y a des gens qui sont gagnés facilement. Il suffit de lui parler de l'amour de Dieu, boum, il est intéressé, boum, il y va. Il y a des gens qui doivent mûrir, qui doivent observer. Tantôt, on parlait avec Yves, et Yves me disait, aujourd'hui, quand tu parles de Jésus aux gens, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient d'abord les rites catholiques. Alors, on va te parler du pape, on va te parler de la cérémonie religieuse. Les gens, aujourd'hui, ont difficile à savoir, mais en fait, quand on parle de la foi chrétienne, on parle du salut en Jésus-Christ des gens. Ça devient quelque chose de terrible, de difficilement compréhensible. Et donc, ça demande parfois un investissement dans le temps. Ça demande qu'on demande à Dieu de la sagesse. Qu'on ne fasse pas ça n'importe comment. C'est là que j'ai parlé donc de gagner les âmes pour Christ. La mise en place d'une stratégie, une détermination. Je ne fais pas ça en essayant. J'ai vraiment l'intention et la volonté que cette personne soit gagnée à Christ. Ce n'est pas de la manipulation. Je ne fais pas un travail qui consiste à faire du cinéma. Je ne vais pas amener la personne à accepter Christ par un jeu de... Non! Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas de la détermination dans le sens de d'embrigader quelqu'un. Je l'emmène de force. Non! C'est une stratégie. Exactement comme un parent fait avec son enfant lorsqu'il veut que son enfant grandisse normalement. Je dis bien normalement, hein. Je ne parle pas des parents abusifs ou autoritaires à l'excès. Alors, donc, notre engagement dans l'évangélisation, c'est ce que je voulais vraiment aujourd'hui, cette année, attirer l'attention, qu'elle soit un engagement pour gagner des âmes à Christ. Et puisque nous avons parlé de ça, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est une trilogie, on a commencé d'abord par la première chose, évidemment, je veux gagner des gens, je veux gagner des âmes à Christ, mais il me faut une méthode, il me faut une stratégie, comment je vais le faire? Si je ne sais pas comment, il faut le faire. Beaucoup de gens ont envie d'évangéliser, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, la timidité, elle est là, ça c'est clair. La peur est là aussi, ça c'est clair. Et puis, parfois, les rapports que nous avons avec les gens, vous savez, évangéliser son patron, ce n'est pas la même chose qu'évangéliser son fils. Hein? Bon, mais quand on a du contenu, c'est autre chose. Et donc, voilà pourquoi la première étape a été de répondre à la question, quel est le contenu qui concerne l'évangile? Et c'est comme ça que la première étape de la trilogie, j'ai parlé longuement de la méthode pour gagner les âmes, et je me suis inspiré très largement de la méthode des quatre lois spirituelles. Deuxième étape dans la trilogie, j'ai abordé la question de l'assurance du salut. Parce que voyez-vous, il faut voir ça dans son ensemble. La question c'est, une fois que la personne est gagnée à Christ et qu'elle est convertie, alors, quelles sont les bases sous lesquelles la personne pourrait fonder sa vie? C'est la question de l'assurance. Comment, sur quoi repose la certitude qu'on est sauvé? Qu'est-ce qui se passe quand on est sauvé? Et c'est là que j'ai abordé les différentes choses, notamment que l'assurance du salut repose sur ce que dit la Bible. L'assurance du salut repose sur les promesses de Dieu dans la Bible, sur la fidélité de Dieu. C'est notre foi qui saisit les promesses de Dieu et qui en fait la réalité de notre vie. Alors, nous avions rapidement, peut-être c'est intéressant d'y revenir juste rapidement, évoqué trois choses qui se passent dans notre vie quand nous devenons chrétiens. Première chose, changement de maître. Moi, j'appelle ça le transfert de souveraineté. Ce n'est plus moi le maître, c'est Christ. Ce n'est plus moi le patron de ma vie, c'est Christ. Je ne vis plus pour moi-même, je ne vis pas en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Changement de maître. Nouveau maître. Deuxième chose importante qui se passe, changement d'identité et par conséquent changement de destinée. Ça veut dire que je deviens enfant de Dieu. Et puisque je deviens enfant de Dieu, j'ai une nouvelle identité et je suis maintenant au service non plus du monde, de ma chair, mais au service de Dieu. Nouvelle identité qui entraîne évidemment une nouvelle destinée, de nouvelles priorités. Dans ma vie, le chrétien n'a pas les mêmes priorités que les gens qui ne sont pas chrétiens. Par exemple, nous étions hier à un mariage, c'était très 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 bien, enfin mariage, c'était des fiançailles d'un jeune homme que nous connaissons, enfin que moi je connais depuis qu'il, enfin non voilà, il est né, je l'ai vu quand il est né, et puis voilà, maintenant il a 29 ans ou je sais pas quel âge comme ça. Et voilà, c'est un jeune qui s'est fiancé hier. Eh bien, on ne pouvait pas rester à la fête jusqu'à 7h du matin. Vous comprenez pourquoi? Alors que quelqu'un a d'autres priorités, pourquoi pas rester jusqu'à 7h du matin après tout, hein? Voilà. Vous voyez, c'est une question de priorité qui change dans la vie. Troisième chose, changement de statut. Je passe de l'esclave à une personne libre. Dieu enlève ma culpabilité. Je ne vis plus dans un rapport de culpabilité avec Dieu. Les choses ont changé. Je suis une nouvelle créature. Dieu me donne une nouvelle liberté. Et ça, c'est possible comment? Par le miracle de la justification. Je demeure pécheur. Pourtant, par ma foi, Dieu me déclare juste. Ça, c'est le truc que je ne comprends vraiment pas bien avec Dieu. Je comprends tout le reste. Enfin, encore que je comprends pas tout. Mais ça, ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Un Dieu saint. Un Dieu juste. Qui est en face d'un criminel. De quelqu'un qui doit être condamné. Et qui dit, ok, tu reconnais ton péché? Tu reconnais ton état de pécheur? Tu reconnais que tu as mal agi devant moi? Tu reconnais ma divinité? Tu reconnais que, ok, tu te remets à ma justice? Ok, très bien. Je t'accorde la liberté. Ça me dépasse. Honnêtement, c'est le truc qui me... Je sais pas. Merci Seigneur. Trois choses importantes que je disais qui changent. Et lorsque le chrétien comprend ça, il peut plus vivre n'importe comment. Il peut plus vivre sa vie n'importe comment. Quelque chose bouge, quelque chose change. Alors, évidemment, nous allons quand même passer... Oh là 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 là. Bon, nous allons passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est une fois sauvé, comment avancer dans la nouvelle vie? Je suis né de nouveau, je suis un néophyte, je suis un nouveau croyant. Je sais que j'ai changé de maître, je sais que j'ai changé d'identité, je sais que j'ai changé de statut, je sais que je suis libre, que j'ai toutes ces assurances devant Dieu. Maintenant, comment vais-je avancer? Alors, j'ai prévu quelque chose, mais je crois que je vais peut-être écourter ce que j'ai prévu pour ne pas devoir raboter le temps qui est déjà pris. Dernière étape donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment j'avance? C'est l'objet de la prédication de ce matin. La conversion, nous avions dit que elle est considérée comme une nouvelle naissance. Souvenez-vous, l'entretien de Jésus avec Nicodème, il dit est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Il comprend pas. La conversion est considérée comme la nouvelle naissance. Jésus, nous allons voir le texte peut-être, comme ça on va avoir deux textes là-dessus. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Il ne veut pas. Alors, Jean 1, 12 et 13, « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ça, c'est le point de départ. « Lesquels sont nés. » La naissance. Ils viennent au monde. « Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ils sont donc nés de Dieu. Ils ont une nouvelle naissance dont Dieu est le Père, en quelque sorte. Ils font partie de la nouvelle famille. Ce sont les petits derniers de la famille de Dieu, en quelque sorte. Jean 3, verset 3. D'abord, et le verset 5 après. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau. Il s'agit de la naissance. Verset 5. Jésus lui répondit, parce que Nicodème est perplexe, hein. Il comprend pas, il dit, mais c'est quoi ce bazar? Eh ben, il lui répond. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je ne vais pas aujourd'hui commencer avec l'histoire de naître d'eau et d'esprit, mais juste relever cette idée que la conversion, ça démarre avec la naissance. La nouvelle naissance. Naître de nouveau. C'est ça, en fait, qui démarre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un bébé? Qu'est-ce qui se passe quand un enfant est né et qu'il est encore tout petit. Alors, ma petite expérience de papa de 6 enfants me dit que quand un enfant naît, eh bien, il a certains besoins fondamentaux. Des besoins fondamentaux. Bien sûr, il va pas vous laisser dormir la nuit, mais c'est parce que il a des besoins. Parmi les besoins, il y a manger. Je pense que c'est le plus gros des besoins. Manger, dormir, et sûrement être entouré dans avoir les réponses à ses besoins. Surtout quand tu l'as fait popo. En général, il y a des enfants, ça dépend, mais ils n'attendent pas beaucoup que tu lui fasses patienter, hein. Ça va crier, hein. Ça va bien crier pour que tu puisses répondre à son besoin. Être entouré d'amour, d'attention. Ce sont des besoins. La tâche des parents est importante parce que le rôle des parents est un rôle qui est fondamental dans l'éducation d'un enfant, dans la prise en charge d'un bébé. Le bébé peut être influencé par la façon dont on s'occupe de lui. Mais dans tous les cas, un bébé, c'est pas quelqu'un qui reste bébé. Vous êtes d'accord avec moi? Un bébé de 40 ans, ça ne se fait pas, hein. Ça ne le fait pas comme disent les jeunes, hein. Non, hein. Un bébé de 40 ans, ce serait un peu choquant, hein. Je crois que tout le monde fuirait plutôt que de s'approcher. La destinée de l'homme n'est pas de rester un bébé. La destinée de l'homme, c'est d'aller de grandir. On passe du bébé à l'enfant à l'ado, de l'ado au jeune, du jeune à l'adulte, de l'adulte à la personne âgée, etc. C'est le cycle de la vie. Il y a une croissance, un progrès. Il y a l'enjeu qui consiste à grandir. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes toujours avec moi, vous pouvez deviner que l'un des besoins, l'une des choses à enseigner à des nouveaux chrétiens, c'est de leur dire, il faut que tu grandisses. Tu ne peux pas rester continuellement bébé. Bébé, c'est une étape, mais tu es destiné à aller de l'avant, à grandir. Première tâche pour le nouveau croyant, c'est sa croissance spirituelle. C'est Dieu qui le veut aussi. C'est dans l'ordre des choses. C'est dans la nature même de la façon dont les choses sont faites, comment Dieu a fait les choses. Les vrais responsables, il est vrai, c'est les parents. Les parents ont cette lourde responsabilité de faire grandir leur enfant, dans tous les sens du mot, hein. Grandir pas seulement physiquement avec de la nourriture et tout ce que vous voulez, grandir pas seulement, dans la façon de réfléchir, grandir dans la maturité, grandir dans les choix, grandir dans tout. C'est un boulot terrible que d'être parent, terrible, terrible. Mais quoi qu'il en soit, même si la tâche incombe aux parents, l'enfant doit participer à cette tâche. Hein. Il doit y participer. La même chose aussi avec le nouveau croyant. C'est vrai que celui qui le conduit à Christ doit travailler avec lui pour le faire grandir, mais lui doit prendre activement part à ce travail-là. Il faut qu'il prenne part. Eh bien, je vais vous proposer un texte biblique qui nous montre que, effectivement, lorsqu'on parle de grandir et qu'on a besoin des choses, eh bien, pour un bébé spirituel, il y a des choses qui le font grandir. Et puis il y a des choses qui ne font pas grandir. Aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur tout ce qui ne fait pas grandir le bébé, parce que le temps avance, mais je vais proposer deux choses qui, dans la Bible, montrent qu'un nouveau croyant peut grandir spirituellement. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3, c'est un des versets que j'aime beaucoup. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, mes amis, la dissimulation, c'est un des trucs qui nous caractérise le plus. Enfin, bon, bref. l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, quoi? Le lait spirituel est pur, afin que par lui, qu'est-ce qui se passe? Vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. La recette pour grandir spirituellement, c'est de désirer le lait. Et le lait, d'après vous, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dans d'autres textes, c'est noir sur blanc, écrit carrément comme ça. Le lait pur de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Autrement dit, pour que quelqu'un grandisse spirituellement, il a besoin de vivre de la parole de Dieu. Il a besoin de la parole de Dieu. C'est son lait spirituel. Il s'agit donc de la parole de Dieu, de la Bible. Pour grandir spirituellement, donc, on a besoin de connaître la parole de Dieu. On a besoin d'apprendre de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que grâce à la parole de Dieu, le nouveau chrétien apprend à servir Dieu. Le nouveau chrétien développe une relation personnelle avec Dieu. Le nouveau chrétien accumule une connaissance doctrinale, théologique sur Dieu. Le nouveau chrétien affronte son caractère avec la parole de Dieu pour changer, être, se laisser transformer. Vous savez, il y a des gens qui ne changent pas leur caractère parce que simplement ils ne mangent pas de la parole de Dieu assez ou pas du tout. Parce que manger la parole de Dieu, c'est pas seulement ici en face de moi quand je fais les commentaires, c'est pas ça, c'est pas suffisant. Il faut véritablement tout un travail de fond pour pouvoir aller de l'avant. D'autres éléments viennent aussi s'ajouter à l'importance de la parole de Dieu pour la croissance du chrétien. Mais ce matin, je ne vais pas me focaliser sur ça. D'autres éléments, je les cite juste. La prière, la participation fidèle à la vie de l'Église, le témoignage chrétien, l'évangélisation, le service chrétien. Ce sont des choses qui font grandir un nouveau chrétien. Mais je ne vais pas aujourd'hui commenter sur ça. Je vais rester sur la parole, sur l'importance de la parole de Dieu, sur l'importance de la Bible. En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous? En fait, je suis simplement en train de vous amener à prendre conscience que le travail de gagner les âmes, le travail d'évangélisation, ce n'est pas un travail qui s'arrête simplement à parler aux gens et qui donne leur vie à Christ, et s'ils le font, amen, et puis on les laisse là. Ce n'est pas ça. C'est un message vraiment qui vous est destiné comme une exhortation à s'engager dans l'évangélisation complète. Il faut que nous soyons conscients qu'il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi de faire en sorte que l'autre soit gagné. Ça, je l'ai dit. De plus, comprendre ce travail dans son ensemble. Faire des disciples. C'est ça le travail. Vous vous souvenez, à la retraite, James Moore avait dit quelque chose de très intéressant. Il avait dit, souvent pour bien comprendre l'œuvre de Dieu, il faut la saisir dans un plan d'ensemble. Parce qu'alors, on voit où on va, on voit d'où on vient, et on va où on va. Quand on saisit que des petits bouts, parfois, on s'enferme dans un piège, parce qu'on ne voit pas. Et l'évangélisation, ça va beaucoup plus loin que simplement parler aux gens. C'est véritablement le travail de faire des disciples. Et faire des disciples, c'est pas seulement œuvrer pour leur donner, les emmener à donner leur vie à Christ, mais aussi tout le travail qui suit après. C'est les faire grandir. Et en les faisant grandir, nous grandissons nous-mêmes. En les faisant grandir, nous grandissons par là, nous aussi. Il s'agit donc d'œuvrer pour qu'ils donnent leur vie, mais aussi qu'ils puissent aller de l'avant. On peut faire ce travail soi-même ou en collaboration avec d'autres personnes qui s'y connaissent. Donc, ce dont nous parlons, c'est vraiment d'aller plus loin que simplement de prêcher l'Évangile. C'est vraiment d'avoir cette notion qu'on appelle la notion de la paternité spirituelle. Être en mesure de pouvoir dire, cette personne qui a reçu Jésus aujourd'hui, où est-ce que je l'emmène? Jusqu'où je vais avec? Jusqu'où je contribue à sa croissance, à sa maturité? Ça change complètement notre façon de travailler les uns à l'égard des autres. Et encore plus, nous à l'égard de ceux qui viennent à Christ fraîchement. Nous avons souvent des gens qui viennent à l'église, qui sont des nouveaux convertis. Nous devons avoir une stratégie de travail avec eux pour les faire grandir spirituellement. Donc ce que je veux dire, c'est que nous avons là une tâche importante. Et ce matin, je vais vraiment me focaliser avec l'élément de la parole de Dieu, assez brièvement, sur comment aider quelqu'un à grandir, un nouveau chrétien à grandir aussi dans la parole de Dieu, dans la croissance avec et grâce à la parole de Dieu. Mais je voulais quand même souligner l'approche globale, apprendre d'une manière globale à travailler dans l'évangélisation, ne regardant pas seulement un petit travail, mais apprendre à faire un travail plus général. C'est un travail qui nous permettra d'avoir aussi une vision plus large du travail de Dieu. Alors, la parole. L'importance de la parole ici, c'est que le chrétien, le nouveau chrétien, apprend à grandir avec le Seigneur. Mais comment moi, qui suis déjà plus avancé spirituellement, je vais pouvoir aider quelqu'un à pouvoir grandir dans la parole de Dieu? Eh bien, c'est moi qui devrais me dire, voilà les différentes choses que je vais montrer aux nouveaux croyants. Je dois viser quoi? Je dois viser la qualité de sa relation avec Dieu. C'est-à-dire, lui montrer dans la Bible, dans la parole de Dieu, tous les appels, toutes les exigences, toutes les promesses, tout ce qui a trait avec la relation avec Dieu, l'importance de cultiver une bonne relation avec Dieu, l'importance de la communion personnelle avec Dieu. Je dois l'amener à avoir du goût, je dois lui donner de la matière pour la parole de Dieu. C'est quoi le salut? C'est quoi le péché? C'est quoi le pardon? C'est quoi la grâce? C'est quoi la foi? C'est quoi l'amour? Etc. Ce sont des choses que le nouveau, j'ai le travail d'amener le nouveau croyant à comprendre cela d'un point de vue biblique et à grandir là-dedans. Là, c'est la connaissance. L'autre aspect, c'est tout ce qui concerne le caractère. Le nouveau croyant doit savoir que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas un truc sur lequel on discute. Si je découvre des choses qui sont incompatibles avec mon caractère, incompatibles avec des difficultés à pouvoir permettre que ma relation avec Dieu soit bonne, c'est à moi de travailler, c'est à moi de montrer aux nouveaux croyants comment il doit pouvoir s'adapter et amener le changement dans sa propre vie. Ça veut dire qu'il faut que je connaisse les caractères de Dieu, le fameux... Bon, les caractères de Dieu, c'est pas difficile, hein. On le voit à travers le fruit de l'esprit, hein. Hein. Nous visons de porter le fruit. Hein. La foi, la charité, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi, etc., etc. Ça, c'est des choses que nous visons, nous, chrétiens, parce que c'est là, véritablement, le caractère de l'esprit. Et ça, c'est ce que nous devons viser dans nos propres vies. Mais ça, il faut apprendre aux nouveaux croyants. Et enfin, la compétence, c'est-à-dire apprendre à servir Dieu. On ne sert pas Dieu n'importe comment. On le sait d'une certaine façon. Il y a plusieurs services dans la maison de Dieu. Mais toutes ces choses-là, il faut qu'ils le sachent. Voyez, c'est pas facile, hein? Mais j'aimerais bien que nous ayons conscience de cela. Que nous comprenions que c'est une tâche qui est importante, mais qui incombe à ceux qui conduisent les gens à Christ. Qui incombe à l'Église. Nous sommes une église, nous sommes une communauté. Quand nous avons des nouveaux chrétiens, des gens qui se convertissent, ça fait partie des choses que nous devons rechercher auprès d'eux. Vérifier auprès d'eux s'ils ont cette connaissance-là. Voyez, vous invitez les gens, ah tiens, est-ce que tu peux venir un peu étudier la Bible avec moi? Regardez un peu dans la Bible et vérifiez si ces choses sont aussi au point dans sa vie. Allez, je ne vais pas beaucoup continuer, mais Ce que je voudrais, c'est que ce travail, nous soyons conscients, parce que nous avons un département d'évangélisation. Mais je ne voudrais pas que l'évangélisation soit la seule structure dans l'Église qui fasse ce travail-là. C'est un travail de nous tous. Et nous devons en être donc conscients. Donc, apprendre, donner du goût aux gens pour la parole de Dieu est une tâche qui nous incombe à nous tous. Et si nous avons la grâce d'amener des gens à Christ, eh bien, que nous n'arrêtions pas simplement à dire, voilà, il est converti, c'est fini. Non, que nous ayons cette tâche de pouvoir avancer avec la personne, en étant conscients que c'est notre rôle aussi de pouvoir inciter la personne à aimer le Seigneur et aller de l'avant. Toutes ces choses concernent la communion entre l'homme et Dieu. Ce que je vise dans ce travail, c'est que la personne ait une très bonne relation avec Dieu. Je ne vise pas à en faire mon disciple à moi, mais le disciple de Jésus-Christ. Et donc, il faut aussi beaucoup d'humilité de notre part pour nous effacer. Vous savez, il y a des gens qui amènent des gens dans l'église, et puis qui en deviennent le chef de file. Alors, il a 60 personnes qu'il a amenées à l'église, et chaque fois qu'on vote contre, s'il lui dit « je suis contre », il y a 60 autres personnes qui sont derrière qui disent « je suis contre ». Ça devient un chef de file, ça devient de la politique. Le but, c'est d'amener les personnes que nous amenons à Christ à être véritablement scotchées à Jésus et non pas à nous. Ça demande de l'humilité, ça demande un travail aussi sur nous-mêmes aussi pour que nous puissions pas devenir le centre des choses. Je vais m'arrêter là et je voudrais vraiment que nous puissions prendre conscience de cela, simplement de savoir que lorsque nous travaillons pour gagner des âmes, nous avons aussi la tâche d'en faire des disciples, de les faire grandir aussi. Et cette tâche nous incombe aussi, notamment en les emmenant à grandir grâce à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, pour qu'on grandisse avec la parole de Dieu, il faut que nous ayons une stratégie, une méthode personnelle à nous, qui permette aux gens de pouvoir grandir. Amen. Bien, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour tout ce que tu permets que nous puissions comprendre, vivre et même être en mesure. Parfois, nous pouvons voir la tâche et dire « waouh, c'est énorme, c'est pas pour moi, c'est pour les spécialistes ». Mais Seigneur, aide-nous à nous dire si c'est une chose que tu demandes, tu peux nous rendre capables de le faire. Aide-nous, Seigneur, à œuvrer pour ta gloire dans ce sens-là aussi, au nom de Jésus. Amen.